Voilà. Donc aujourd'hui, on va glisser sur. Oui, donc après le tableau, il y a bien sûr tout un élément sur les comptes types. Donc là, pareil, on pourra y joindre des éléments sur chaque version de vos remarques. C'est ça aussi l'élément, hein, petit à petit. Donc aujourd'hui, on va aborder un autre conte merveilleux qui est un sacré morceau aussi. Hein. Je dirais qu'il est même plus complexe à analyser sûrement la Belle Endormie. Hein. La Belle Endormie est d'une, on l'a bien vu la dernière fois, qui n'a quasiment pas de version orale. C'est quand même un conte qui est très, très, très porté par la littérature. Donc c'est intéressant que la littérature orale soit saisie, mais il n'y en a quasiment pas. Hein, si vous regardez le catalogue en tant que tel, vous allez voir qu'il y a très très peu de versions sur la Belle Endormie au niveau de la tradition orale. Hein, voilà. Alors par contre, la fille aux mains coupées, je peux vous dire que là, voilà, il y a une première monographie qui a été construite avec plus de 480 versions récoltées qui ne sont pas définitives, hein, mais et un petit peu partout sur les cinq continents. Beaucoup de contes de cet ordre-là en Afrique, beaucoup en Asie, beaucoup. Donc, cette notion des mains coupées, de la fille aux mains coupées, elle est vraiment très, très répandue. Hein. Donc, ça nous dit des choses déjà qui sont intéressantes. C'est qu'on s'aperçoit que si on regarde bien La Belle Endormie, c'est vraiment des contes qui touchent au milieu très, très féodal, au milieu. Mais que quelque part, ça touche peu, en fin de compte, le monde rural, hein, si vous regardez bien. C'est une problématique, bien sûr qu'elle va le toucher dans le fond. C'est pour ça que ça a pu être repris, hein, ça, dans ce qu'est la latence, l'endroupissement. Mais quelque part, les conditions mêmes, si vous regardez bien, alors que la fille aux mains coupées, on est toujours dans une position rurale. On est vraiment dans le cadre populaire. On est dans quelque chose qui va toucher la royauté de très loin. Voilà, ou le milieu, en tous les cas, ce milieu-là, on est beaucoup plus dans la notion d'inconscient direct par rapport à ce conte-là que par rapport à l'endormissement tout à l'heure. Voilà. Donc, la fille aux mains coupées, moi, je vais peut-être prendre pour départ une version qui est une version qui rompt un petit peu avec les autres. C'est la version alsacienne que vous avez dans De la rue Ténèze, hein, qui s'appelle d'ailleurs, comment, Marie-Annette. Marie-Annette. Voilà. Alors, elle rompt un petit peu avec les autres parce que ce n'est pas un père, ce n'est pas un frère, c'est une mère qui est jalouse de sa fille. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment justement, chaque début de conte va nous amener peut-être sur des problématiques similaires, mais éclairées autrement, systématiquement. Hein. Donc là, l'éclairage, il part d'une jalousie mère, enfin, ce qu'on met comme le mot jalousie, il faut le mettre entre guillemets pour moi. Hein, parce qu'on verra que dans l'analyse, ce n'est peut-être pas aussi confirmé qu'on ne le pense. Hein, voilà. Dans tous les cas, cette mère était veuve. Bon, pareil, tout conte merveilleux part sur un déséquilibre, souvent déséquilibre masculin-féminin. Hein, donc là elle est veuve. Son mari était garde forestier. Elle commençait à mettre les oreilles en place. Hein. Tout ça, c'est des petits éléments qui ne sont jamais vraiment gratuits en tant que tels. Hein. Et cette mère, ben, elle est jalouse. Pourquoi? Parce qu'on nous dit dans le conte que les hommes venaient se distraire auprès d'elle. Vous y mettez ce que vous voulez. Voilà. Et par contre, sa fille devient de plus en plus belle. Et donc, les hommes ont tendance à glisser du côté de la fille plutôt que de la mère. Donc, il y a des jalousies qui s'installent, pareil entre parenthèses. Et la mère veut la faire tuer par son valet, hein, qui au départ refuse, mais elle lui promet de se marier avec lui s'il exécute la tâche. Hein, donc voilà. Tout ça, déjà pour moi, ça me met en alerte sur cette notion du désir, des émotions, de la rupture. Hein. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit systématiquement que les contes merveilleux sont là pour nous mettre en position d'empathie avec tous les problèmes qu'on va rencontrer sociétalement, mais aussi émotionnellement, mais aussi intérieurement. Hein. Donc, dans notre élément, il y a les deux positions. On essaiera d'en reparler peut-être après, mais la position freudienne. Hein, qui est vraiment, il faut analyser tous les éléments pour comprendre ce qui se passe réellement. Il y a un côté jungien qui nous dit ben, on est tout ça en même temps. Donc il faut aller chercher systématiquement la position qu'on a en nous de chacun des personnages. Hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, la dernière fois, ne pas se contenter du héros, mais de bien rentrer en empathie avec tous les personnages si on veut vraiment travailler un conte merveilleux. Hein. Donc on va être obligé de se la coltiner dans cette mère au niveau empathique. Hein. Il faut y aller, hein. Et puis le valet qui va couper les mains, il va falloir y aller aussi. C'est pas rien. Il n'y a pas que la jeune fille qui est à travailler. Il y a vraiment tous ces éléments-là qui, pour Jung, en tous les cas, font partie de nous-mêmes. C'est nos parts d'ombre, nos parts de lumière, mais ils sont là. Et donc, on a tendance à les écarter parce que ça nous dérange. Mais ils sont là. Voilà. Donc, est-ce qu'on va les travailler, ces éléments-là, ou est-ce qu'on ne va pas les travailler? Voilà. Donc là, la jeune fille, ben, le valet va s'exécuter, hein, mais il n'arrive pas à la tuer. Mais par contre, il faut qu'il ramène les mains pour montrer, pour prouver qu'il a tué la jeune fille. Et donc, il lui coupe quand même les mains. Voilà. Donc, il abande, il fait en sorte que quelque part, ça ne soit pas non plus mortel. Hein, donc, il fait en sorte de la sauvegarder en tant que telle. Et elle va donc être dans la forêt. On ne nous dit pas combien de temps. Alors ça, c'est toujours important, cette notion de temporalité, puisqu'on est vraiment dans la notion d'initiation. On va le voir symboliquement après, derrière, ce qu'il y a. Hein, c'est-à-dire, le passage dans la forêt, souvent, est extrêmement important au niveau initiatique. C'est l'espace du retour au sauvage, d'une certaine façon, hein, du retour à l'origine, à la source. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va se débrouiller comme elle pourra. On va voir que dans notre version, ça ne sera pas le cas. Et elle va trouver un verger avec de magnifiques fruits qu'elle ne peut pas attraper, puisqu'elle n'a plus de main, mais qu'elle va être obligée de croquer. Hein, comme un animal, en fait. Hein, voilà, c'est ça. Alors, elle est bien revenue à cette notion d'animalité, en fait. Et le roi qui tient beaucoup, ou le seigneur, je ne me rappelle plus dans cette version, mais bon, il fallait que je regarde. Dans tous les cas, le seigneur qui est là, se pense que c'est un monstre ou une bête qui est arrivée là. Hein. Voilà, et donc, il va la surveiller et découvre, bien sûr, une jeune fille très belle, elle n'a pas de main, l'amène à son royaume et veut l'épouser. Donc, dans cette version-là, elle va avoir des jumeaux. Mais le roi est parti à la guerre au moment où elle naît. Ça, c'est vraiment le côté classique, bien sûr. On va voir que le départ à la guerre est quasi constant dans toutes les versions. Hein. Voilà. En tous les cas, l'éloignement. Il y a une ou deux versions où l'éloignement dépend de n'est pas guerrier, mais beaucoup de versions sont le côté guerrier. Donc, pareil, quand c'est aussi fréquent, c'est intéressant de s'y arrêter. Qu'est-ce qui se joue là, dans ce motif qui est aussi répété dans toutes les versions. Hein. Voilà. Donc là, eh ben, elle va avoir ses enfants. On fait une lettre au roi pour le prévenir. La lettre est interceptée, transformée. On dit donc au roi qu'il a eu deux chiens. Voilà. Donc là, le chien aussi, on va voir qu'il va être souvent présent, les canidés, hein, très très régulièrement dans ces contes-là, dans ces versions. Donc c'est pas gratuit non plus. Intéressant de questionner. Voilà. Ben, le roi lui dit s'il a eu des chiens, gardez-les, je verrai quand je vais revenir. En gros. Hein. Et puis la lettre est de nouveau transformée, c'est tuer-les. Ça, on va retrouver ce cadre assez fréquemment dans toutes les versions. Et donc là, les parents qui se sont pris un peu d'affection pour la jeune fille, quand même, se disent, bon, on ne va pas la tuer. Ils lui font un bissac, un enfant derrière, un enfant devant, et elle part. Hein, voilà. Elle part donc sur le chemin et de nouveau vers la forêt. Donc la forêt revient deux fois, intéressant, et chaque fois dans la fuite, dans le refuge. Hein, voilà. Et dans la forêt, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va trouver souvent, dans toutes les versions, on verra aussi, une rivière, une fontaine, une source. Pareil, faites attention, c'est pas un puits. Vous verrez que c'est pas toujours la même qualité d'eau, mais la qualité d'eau va dire des choses aussi très intéressantes, hein, dans l'analyse. Voilà. Et donc là, ben, elle veut faire boire elle-même et boire ses enfants, et elle tombe en enfant à l'eau. Et là, heureusement, alors dans cette version, je crois que c'est Saint-Pierre, Saint-Paul, il y a toujours quelque chose qui va se christianiser à ce moment-là. C'est Pierre et Lazare dans cette version exactement. Voilà. Donc là aussi, Pierre et Lazare, pourquoi Pierre et Lazare? Donc ce n'est pas toujours non plus gratuit. Il faudrait avoir des clés aussi sur la géographie en tant que telle. Hein, parce que là aussi, c'est pas lié en fonction de où a été le comte. Parce que ce sont des saints qui sont vénérés dans des régions particulières pour des raisons particulières. Hein, voilà. Et donc, ils vont lui permettre de retrouver ses bras, voilà, et d'avoir une chaumière sur laquelle elle va se mettre en latence pour que son mari vienne la chercher. Et quelques années plus tard, le mari revient, s'aperçoit qu'il s'est fait gruger, donc se met à sa recherche désespérée. Bien souvent, il ne la trouve pas. jusqu'au jour où par hasard il arrive sur cette chaumière. Et donc là, il faut qu'il y ait reconnaissance, parce qu'il reconnaît bien sa femme, elle a des bras, c'est pas normal, parce qu'elle n'avait pas. Vous dites beaucoup sur cette notion de l'identification, hein, et puis petit à petit, il y a toute une stratégie qui va se mettre en place pour qu'elle reconnaisse, là c'est souvent l'enfant, parce que le père a laissé tomber un bras qui va le relever, hein, etc. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est une version, on va la garder comme version de référence, pour comparer avec les autres. Hein. Moi, j'ai fait un comparatif un peu sur une dizaine de versions, là. J'ai pas fait les 450 ou les 480, il y en a beaucoup trop. Hein. Alors, déjà, ce récit, pour moi, il est intéressant parce qu'il est aussi, bien sûr, comme beaucoup de récits de la littérature orale, objet de littérature. Et on essaiera de voir sur le plan deux ou moins récits littéraires qui sont La Mannequine, hein, et Hélène de Constantinople, qui reprennent exactement tous ces motifs. Alors là, les médiévistes s'en sont donnés à cœur joie. Hein. On est le nouveau 13e, 12e, 13e souvent. Voilà. Et les médiévistes se rendent compte que, bien sûr, c'est sûrement le conte qui est préalable à l'écriture. Là, on parle, là vraiment, du nombre de versions qu'on a partout de diffusion. Et vu les cadres de référence, par exemple, qui sont très précis dans chaque reprise littéraire, ça peut être que repris de la tradition. En fait, hein. Voilà. Donc là, une fois de plus, on est dans cette question que les médiévistes, les littéraires en général se reposent, de la source. Hein, on n'est pas les seuls à s'intéresser à ces récits. Je peux vous dire qu'il y a au moins 18 secteurs universitaires qui travaillent régulièrement sur le conte merveilleux. Voilà, et donc, on peut être nourri, si on veut, de plein de possibles. Hein. Voilà. Alors déjà, moi, si je regarde cette version et que j'essaye de prendre notre thème, qui est quand même le féminin, le masculin, les genres dans la littérature orale, qu'est-ce que ça nous dit des genres en tant que tel, hein. Voilà, donc là, il y a peut-être à réfléchir un petit peu déjà sur chaque phase. Moi, c'est ça qui va me paraître important pour nous, c'est ce découpage, et chercher un découpage qui est commun à l'ensemble des versions, qu'elles soient littéraires ou qu'elles ne le soient pas. Hein, donc ça, par contre, je vous redonnerai après. Moi, j'ai fait des tableaux de cet ordre-là, vous les compléterez. Hein, j'ai fait des tableaux sur les 10 versions que je vous ferai passer en document. Voilà, il faut bien voir que quelque part, il y a des éléments systématiques qui reviennent. Hein, voilà. Alors, il y a déjà quelque chose qui va être important, puisqu'on va retrouver très souvent ce conte-là avec un autre démarrage, qui est le désir incestueux du père. On va aussi retrouver dans les versions littéraires la plupart du temps. Hein, très proche, bizarrement, de Codane. Hein. Voilà, on est dans des ordres. Alors déjà, pour moi, ça veut dire cette notion du désir de l'inceste. J'essaye de voir un petit peu ce qu'elle nous dit du féminin et du masculin, systématiquement. Et chaque fois, je me poserai la question, est-ce que ce désir de l'inceste n'existe plus aujourd'hui? Est-ce que la relation masculin-féminin, elle est encore dans cette problématique aujourd'hui? D'accord? Sachant que l'inceste est posée du côté du père, mais elle est aussi posée du côté du frère, dans les versions. D'accord? Donc, moi ça me paraît important déjà quand on fait ce type de récit, puisque l'objectif pour nous, c'est quand même plus ou moins d'essayer de trouver de comment on les raconte aujourd'hui, d'être clair avec la résonance contemporaine. Après, il y a un deuxième point qui sera intéressant pour nous de travailler en permanence, c'est: est-ce que le conte est là pour dire une vérité ou est-ce qu'il est là pour questionner une réalité? Et pour moi, quand je raconte du merveilleux, c'est pour mettre en vibration, en résonance, des problématiques, mais en même temps leur trouver du récit qui mette à distance ces problématiques-là. Parce qu'on ne sait pas de l'information qu'on va donner. Le conte ne nous donnera jamais un élément informatif, mais il va nous mettre dans une émotion qui nous oblige à penser la situation. Donc déjà, pour moi, une petite fille qui écoute ce conte-là, elle se met aussi en résonance par rapport à une problématique qu'elle peut voir pour elle ou pour ses copines. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut éclairer sans, hein, j'avais bien le compte rendu, cette phrase de Nicole Belmont, dévoiler en voilant. C'est pour moi une clé essentielle du conte merveilleux. C'est-à-dire qu'on ne dévoile jamais en tant qu'informatif. On met en travail le problème. Et c'est extrêmement important pour tout ce répertoire, en fait. Hein. Voilà. Donc, dans certaines versions, on va voir que c'est souvent le père donc, qui est dans une position, et c'est jamais dit directement. On dit que le père, plus ou moins, vend sa fille au diable. Qui est le diable, si ce n'est le père lui-même? Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans un endroit où, quelque part, cette dérive peut arriver chez n'importe qui au moment donné. C'est-à-dire que pour moi, je lis cet élément-là, le diable, pour moi, il est simplement le côté dégradé du Père, hein, qui peut aller jusqu'à ce désir-là, en tant que tel. Donc, ce n'est pas inintéressant aussi de le poser dans ce sens-là, hein, dans ce cadre-là. Ça sera pareil pour le frère, hein. Pour le frère, il y a une magnifique version qui a été réécrite par ma mairie, hein, qui est l'Algoum. Voilà, qui est vraiment une très très belle version aussi, où là c'est le frère, hein. Et là, on a carrément le motif au début où le frère veut se marier avec celle à qui appartient le cheveu d'or qu'il a trouvé dans une fontaine. Donc on est dans Tristan Iseult, hein, on est dans le Roi Marc. C'est un motif qu'on va retrouver dans beaucoup d'éléments de littérature, mais cette notion de aussi, comment il y a derrière toute cette problématique-là, pour moi, un élément de l'ordre du désir. Voilà. Freud disait d'ailleurs, on n'est pas des êtres de besoin, on est des êtres de désir. Et c'est extrêmement important de pouvoir le repositionner dans ce sens-là aussi, hein, c'est-à-dire le désir contrôlé ou qui ne l'est pas. Voilà. Donc ça pose vraiment des tas de questions, ce début de conte, hein, parce que dans toutes les versions, on va avoir cette rupture, on va avoir cet élément-là, hein, plus ou moins christianisé, d'accord? Parce que bien sûr, la religion ne s'est pas privée de rentrer dans cette émotion pour mettre derrière du dogme et de mettre des espaces de réalité morale, hein, et c'était essentiel. Vous pensez que ces actes-là étaient beaucoup plus fréquents dans le monde médiéval que chez nous, hein. Donc, pour moi, la religion a quand même été un moteur de régulation, qu'on le veuille ou pas. Même si on est croyant ou qu'on ne l'est pas, ça a quand même été un moteur de moralisation et de régulation. On ne peut pas l'ignorer. En tant qu'anthropologue, en tous les cas, quand on fait le point, on voit très bien que ce n'est pas si neutre, hein. Voilà. Donc le diable, le frère, le père, voilà. Au départ, on est vraiment sur le côté masculin et le côté féminin, hein, avec cette bascule du désir qui va être entre les deux, la fille qui grandit. Hein, voilà, le diable arrive. Donc on est vraiment sur un espace. En plus, il y a des choses très relatives. Le père, quand même, dans la version de Grimm, vend sa fille par malentendu. Voilà, parce que quelque part, il vend sa fille en pensant qu'il vend son pommier. Hein, voilà. Si vous faites l'élément symbolique avec le pommier, en fin de compte, c'est vraiment une confusion entre la fille qui peut servir à quelque chose, la fille qui peut être consommée. Ça peut être, vous voyez qu'il y a tout un espace de relation, et la finesse du conte, elle est là tout le temps. C'est-à-dire qu'elle ne nous donne jamais des choses qui sont clairement, immédiatement perceptibles, mais à force de l'avoir en tête, il y a des choses qui s'éclairent petit à petit, hein. Et quand on fait plusieurs versions, alors là, ça devient de plus en plus flagrant, hein. Voilà. Donc la mère, c'est autre chose, hein, mais si on regarde bien la jalousie, on va avoir la jalousie constante aussi dans des versions. Et là, c'est par contre la jalousie féminin, féminin systématiquement. C'est la jalousie de la mère, ça va être la jalousie de la belle-mère, ça va être la jalousie de la marâtre, de la belle-sœur. Cette difficulté de relation de féminin à féminin. Et d'ailleurs, le conte nous le prend aussi très très souvent en compte. Est-ce que ça n'existe plus aujourd'hui? Je vous laisse le réfléchir, mais en tous les cas, la problématique, elle est posée, et des fois de façon très cruelle. Il y a des versions où la belle-sœur, parce que le frère a épousé une autre personne, hein, va jusqu'à tuer son enfant pour accuser sa belle-sœur. Hein. C'est faire en sorte que quelque part, et c'est à cause de cet acte qu'on va lui couper les mains, que son frère va lui couper les mains. Voilà. Donc on est vraiment dans des endroits où, et aujourd'hui malheureusement, l'infanticide peut se jouer. Il y a encore des cas récents d'une mère qui a tué son fils à Sommières il y a quelques années. Moi, j'ai un neveu qui y était, ça l'a complètement traumatisé. Il a été obligé d'aller en psy régulièrement parce qu'avoir un collègue qui se fait tuer par sa mère, ça crée une sacrée insécurité dans l'ensemble des enfants qui étaient là, hein. Qui est ma mère, quoi? Est-ce qu'elle peut aller jusque-là? Il faut beaucoup retravailler pour reconstruire voilà. Donc tout ça, c'est des questions quand même qui sont pour moi autant contemporaines, elles existent de tout temps, ces questions-là. Simplement, le milieu change, le cadre change, hein. Et ces récits sont surtout là pour nous mettre une fois de plus à distance. C'est-à-dire le voir, mais avec la distance de la poétique, la distance de la parole. Hein. Et ce conte-là, il est vraiment génial pour ça, parce que vraiment, il est flagrant sur les problématiques féminines constamment, quoi, hein, d'une certaine façon. Voilà. Donc, on arrive à la fameuse amputation. Qu'est-ce qu'on met derrière cette amputation? Qu'est-ce que c'est que de ne plus avoir de main en tant que tel? Quand on dit les bras m'en tombent, belle expression. Voilà, c'est quelque part. Qu'est-ce que c'est que la découverte pour une jeune fille qui se retrouve dans une problématique d'inceste? Qu'est-ce qui se joue? C'est quoi qu'on peut mettre derrière dans la relation main coupée? Est-ce qu'elle est encore capable de faire quelque chose? Est-ce qu'elle est capable de prendre sa vie en chemin? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, pour moi, qui est extrêmement important à questionner dans toutes ces versions, la notion de perdre la capacité d'autonomie. Hein? Donc, déjà, ce conte-là, on va le voir, il est en train de questionner en permanence la dépendance de la femme dans la société. Hein? Ça aussi, c'est vraiment une question qu'on va voir, dépendance avec le père, dépendance avec... les animaux qui vont venir même l'alimenter, dépendance avec le roi, dépendance avec la belle-mère, dépendance avec les saints, jusqu'à la fin. Et même là, on replonge systématiquement dans un circuit de dépendance. Et donc, pour moi, ce conte, il questionne la notion d'autonomie. Et ça, c'est une question quand même qu'on ne peut pas poser autrement que contemporaine. Le féminisme cherche bien cette notion d'égalité et d'autonomie des femmes pour trouver cette égalité. Donc, ce conte-là, pour moi, il est extrêmement contemporain dans ce qu'il propose, en tous les cas. Il ne donne pas de solution, mais il donne déjà des cheminements possibles, hein, et les difficultés de ces cheminements en tant que tel. Oui, alors après, il y a toute la complexité qu'on pourrait déployer, parce qu'il y a tous les sentiments qui vont arriver derrière et qui vont se compléter. Hein, voilà, il y a tout.
Abandonner,
une
ah. À la présidence, on le voit dans son récit.
Oui. Alors, il y a toute la complexité. Si on voulait prendre, par exemple, la notion de l'inceste, il y a aussi le fait de se taire, de ne rien dire, d'accepter l'inceste malgré soi. Et ça, on le voit bien, ce que ça peut faire comme dégâts. Hein, des gens qui révèlent l'inceste avec le père ou avec le frère, carrément quand ils ont 20 ans ou 25 ans, et ça fait 10 ou 15 ans que ça dure. Hein. Donc, cette notion de culpabilité qui va aller avec ça en plus. Donc, la culpabilité, se couper les mains pour la culpabilité aussi, c'est aussi un autre élément. Voilà. C'est autant de choses de remise en cause, hein, qui sont là. On le voit avec Zalgoum, par exemple, la notion de remise en cause avec la problématique de l'inceste, de tout ce qui est la structure familiale. Et donc là, le père qui vient lui dit, on va retrouver ça d'ailleurs chez les Touaregs, donc c'est vraiment un sujet très berbère. Hein, avec Poda, il y a un Podane berbère qui dit la même chose. Hein. Le père revient après qu'ils aient voulu marier leur fille avec leur frère, parce que les parents sont quasi obligés d'accepter, parce que le frère a dit, de toute façon, je ne me marierai qu'avec elle. Il a découvert que c'était sa sœur. Hein. On ne dit rien à sa sœur dans Zalgoum. Hein. Elle ne sait pas, il faut que ce soit des animaux qui viennent lui dire. Hein, il y a une hirondelle, une corneille et une vache. Pareil, ne laissez jamais passer ces détails-là. Hein, c'est... Donc, c'est vraiment un espace très important, mais du coup, elle ne le sait pas, elle l'apprend par les animaux, et donc elle part se cacher dans une grotte. Hein, voilà. Mais en tous les cas, cette notion-là, c'est que vraiment, après, dans la grotte, chaque parent vient la voir et essaye de lui demander de sortir. Et elle dit, non, père, mon père, non, tu es mon beau-père, ça ne peut pas fonctionner. Ma mère, tu es ma belle-mère, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc, elle remet en cause aussi toute la structure familiale. C'est-à-dire comment l'inceste remet en cause aussi toute une cohérence familiale. Hein. Voilà. Et ça, aujourd'hui, la cohérence familiale, elle est quand même extrêmement remise en cause aussi par les manipulations de ceux qui sont en train de se jouer. Hein. Voilà. Donc, là aussi, on a des questions à se poser sur plein de choses à ce niveau-là. Voilà. Alors, l'amputation, il y a aussi après la notion, dans certaines versions, de la malédiction qu'elle lance vers son frère, son père, etc. Même dans Zalgoum, c'est son frère, de la fameuse épine qui va se planter souvent dans le genou, hein, voilà, ou dans le pied, dans tous les cas, le lieu du déplacement. Hein, c'est-à-dire que la malédiction va faire que celui qui était coupable de désir incestueux, en tous les cas, ne pourra plus avancer lui non plus, tant que la jeune fille ne viendra pas lui enlever l'épine. Voilà. Donc, c'est la seule à pouvoir le faire. Voilà. Et donc, tant qu'elle n'aura pas trouvé sa main pour enlever l'épine. D'accord ? Donc, ça veut dire que là aussi, il y a un grand questionnement sur la reconstruction à partir de ce qui se joue là, C'est-à-dire que si elle n'arrive pas elle-même à trouver sa plénitude, de toute façon, elle ne pourra pas, le père, et même dans certains endroits, quand le père, on lui enlève l'épine, il meurt. Il peut même plus accepter ça dans la culpabilité qu'il peut avoir. Hein. Voilà. Donc on a vraiment des espaces ou des versions comme ça qui sont extrêmement importantes. Hein. Alors dans certaines versions, la version de Berbère justement, Kabyle d'Algoum, elle n'a qu'une main coupée, là aussi. On ne coupe pas les deux. C'est son frère qui lui coupe la main avec un sabre, il a une seule main coupée. Donc elle en a encore une. Donc ça change beaucoup de choses aussi, hein, dans la dynamique du récit. Voilà. Il y a peu de versions, il n'y a qu'une main, hein, mais il y en a. OK. Donc le fameux abandon, oui. Hein, l'abandon dans la forêt. C'est-à-dire que ça, c'est aussi, là, dans beaucoup de versions, bien sûr, le frère, le père, etc., va la rejeter carrément du foyer, hein, et l'amener dans la forêt, milieu sauvage, hein, avec ses deux mains amputées, des fois attachées nues à un chêne, dans certaines versions. Hein, donc là aussi, il y a des images extrêmement violentes dans ce qui peut se jouer là. Voilà. Et là, souvent, ce qui va se passer, c'est que ce sont des animaux qui viennent la nourrir, et souvent des chiens, c'est même presque tout le temps des chiens, hein, qui, quelque part, la découvrent dans sa cachette et, quelque part, vont leur amener systématiquement leur nourriture, hein, pour qu'elle puisse continuer à vivre. Donc, moi, le chien, il m'interroge beaucoup à différents niveaux. Bon, symboliquement, on sait que c'est un psychopompe, donc quelqu'un qui nous relie, à l'ancestralité des âmes, des anciens, etc. Hein, mais c'est aussi un domestique. Donc, une fois de plus, quelqu'un de dépendant d'eux. C'est pas un animal sauvage qui vient la nourrir. C'est toujours un animal domestique. Donc, intéressant aussi de se reposer la question de la succession des dépendances systématiquement qui sont posées en tant que telles.
Blanche-Neige, pendant la première version, c'était pas la
Oui.
même catégorie.
C'est
Elle
pas, on n'est
marche.
pas, non, on n'est pas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser que les contes merveilleux en tant que tels, en gros, ils sont systématiquement des problématiques humaines différentes pour chaque conte. Ils ne vont jamais vraiment aller chercher le même endroit, même s'ils se ressemblent beaucoup, la façon dont ils sont construits, la plupart du temps, ils nous ouvrent sur d'autres problématiques. Hein. Donc, comme il disait la dernière fois, il y a 479 contes merveilleux, c'est quasi 479 problématiques humaines qui sont posées en tant que telles. Alors, il y en a quelques-uns qui vont venir en résonance les uns avec les autres, hein, ils s'internourrissent aussi. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'il y a de fabuleux, c'est quand on commence à prendre le répertoire en main, c'est qu'on s'aperçoit que chaque conte qu'on lit va nous ouvrir des clés sur les contes qu'on connaît déjà ou autres. Hein. C'est un réseau. Oui, dans la tradition, c'est évident qu'on ne connaissait pas qu'un seul conte. Il y avait toute une série de contes qu'ils connaissaient, qui venaient en résonance les uns avec les autres. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, on isole énormément un récit et on ne fait pas ce travail de mise en connexion du répertoire, hein, en tant que tel. Voilà. Donc, oui, il y a quelque chose qui va remplacer aussi intéressant le chien, c'est le verger, les fruits. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a? Mais pareil, qu'est-ce que c'est qu'un verger? Ce n'est pas des baies sauvages. Hein. Un verger, c'est travailler. Et on nous le fait bien savoir, hein, que le roi, il y tient à ses poires. Hein. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui manque. Hein. Il les compte tous les jours. Voilà. Donc là aussi, et puis il faut qu'il y ait un ange qui vienne permettre ce passage. Il y a dans la version de Grimm, c'est un ange qui ouvre la rivière pour quasi. On se retrouve avec Moïse. Hein, voilà. Il ouvre la rivière pour qu'elle puisse accéder. Et ça vous rappelle rien, cette notion de manger le fruit, il est fondu? Hein? Il y a quand même des... Oui, mais bon, je pense qu'on peut quand même jouer où est le serpent, quoi, hein? Voilà, donc on est vraiment sur des échos bibliques aussi extrêmement importants en permanence dans tous ces récits-là. Ils sont pas pour rien mis en place, hein? Ils sont vraiment là, quoi. Donc après, on va avoir ce fameux roi qui vient... Qui vient l'épouser et qui est vraiment. Alors, c'est très ambigu parce qu'en même temps, il est attiré par cette jeune femme grâce, on nous dit tout le temps, à sa beauté. Et en même temps, c'est une femme qui est amputée, quand même. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du masculin qui est analysé. C'est co comment, quelque part, cette notion de elle n'a pas ses mains, donc elle va être dépendante de moi encore plus, quoi. Intéressant aussi de poser, et puis comment les parents ne sont pas trop d'accord, mais il va imposer vraiment son choix dans cette notion de, mais en même temps, il est incapable de s'occuper d'elle puisqu'il part à la guerre. Mais très.
Oui, c'est pas qu'elle a.
Non, non, il ne sait pas, mais très souvent, c'est ça. Hein, c'est ça aussi. Après, on verra comment les exceptions viennent des fois re-questionner les problématiques. Mais moi, en tous les cas, c'est la question que ça me pose. Qu'est-ce qui se joue? La beauté, mais il faut pas qu'elle soit trop active, quoi. Est-ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment cet espace aussi de la représentation. C'est quoi la beauté, si ce n'est quelque part une représentation très formatée par le social, très formatée par les tendances d'une. Voilà. Où est vraiment la beauté? C'est une grande question philosophique, on ne va pas la débattre ici. Hein, mais en tous les cas, cette notion de beauté, elle est posée là, au moins dans ce motif-là. C'est quoi être belle?
On m'a refait des remarques sur les questions, donc est-ce que tu peux couper ton
Oui, on peut couper, oui.
ton micro et moi j'ouvre le mien.
Oui. Alors attends.
Pour couper. Oui, dans cette version, le roi part pour la guerre. Alors, est-ce que dans les contes, les raisons de départ d'un roi, c'est toujours la guerre?
Dans 80% des versions, oui. C'est pour ça que je posais la question. Il faudrait que je te réouvre mon micro, mais je crois qu'il y avait une question. Et... On va essayer d'organiser.
Oui, parce qu'il faut que... Voilà, là, tu peux remettre ton micro et tu peux répondre. Et je coupe.
OK. Oui, donc oui, dans 80% des versions, c'est le roi part à la guerre, mais je pense que quelque part dans ce motif, il y a la construction de la virilité masculine. C'est soit il part à la guerre, soit il part faire du commerce au loin, soit donc c'est souvent des rôles qui étaient attribués uniquement aux hommes. Donc là aussi, je pense qu'il y a une fois de plus, tout ce que je vous donne là, c'est pas des vérités, hein, c'est des réflexions, c'est des hypothèses possibles. Hein. Elles sont à partager et à réélaborer systématiquement. Hein, voilà. Moi, je vous donne ce que je peux en déduire là aujourd'hui sans aucune certitude. On est bien d'accord. Hein, voilà. Oui.
Et pas mieux de garder les questions pour voilà. Oui. Attends, question parce que là, ça va être un aller-retour.
Oui, ça va être compliqué.
Oui, je veux dire, on va peut-être y répondre à toutes ces questions dans mon développement. Peut-être il vaut mieux garder qu'on déroule le compte en tant que tel dans l'analyse et puis qu'on voit après s'il y a des questions qui viennent se mettre en place. Voilà. Donc, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que oui, le roi, on est vraiment dans un motif de départ qui est souvent un motif, donc, souvent de l'ordre d'une affirmation de la virilité. Il part à la chasse, il part faire du commerce au loin, il part à la 80% à la guerre. Voilà. On est vraiment dans des espaces en même temps, mais il faut qu'il y ait cet éloignement, en tous les cas. Et donc là, on se retrouve avec la manipulation des lettres. Donc déjà, l'enfantement, pas rien, on va quand même enfanter soit d'un garçon, toujours des mâles, dans toutes les versions, il n'y a pas une seule fille qui naît. Hein. Je croyais mal. Moi, dans ma tête, j'avais mis dans la version alsacienne un garçon et une fille. Non, j'ai bien regardé, c'est deux garçons. Voilà. Très souvent, la gémellité, il y en a deux, de temps en temps, un seul, des enfants marqués en même temps, très souvent. Ils ont des étoiles au front, ils ont des cheveux d'or, ils ont des. Voilà. Donc, des enfants un peu exceptionnels. Donc, toute cette notion de la naissance, de l'accouchement, hein, avec une fille qui est sans main. Donc, ce n'est pas rien non plus. Hein. C'est-à-dire que quelque part, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des enfants alors qu'on ne peut pas être autonome, qu'on n'a pas en main son propre destin? Qu'est-ce que ça représente? C'est une dépendance de plus. Vous voyez ce que je veux dire? On est loin de l'autonomie, là, hein, pour l'instant. On est vraiment dans un endroit où on nous donne en permanence des poids supplémentaires sur la dépendance. Quoi. Et avec des beaux-parents qui ne sont pas toujours très sympathiques avec ce qui vient d'arriver, puisqu'il y en a qui veulent carrément tuer les enfants, il y en a quelques-uns quand même qui prennent bien les choses. Voilà, donc il y a la version où il y a un commerçant, les parents sont au regret de faire partir la fille, mais surtout, c'est surtout l'enfant qu'ils auraient aimé garder. La fille, bon, qu'elle s'en aille, c'est pas grave. Voilà. Donc il y a plein de questionnements qu'on va retrouver comme ça sur des attitudes familiales, de refus. On est sur le rapport aussi belle famille, femme qui est là, hein, qui est pas. C'est, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, on appartenait donc à la famille uniquement quand on avait eu des enfants. Hein, c'est le problème de tout patriarcat dans le monde, c'est que les femmes sont faites pour être données à une autre famille. Voilà, mais elles ne seront reconnues par cette autre famille qu'au moment où il y aura eu le sang partagé grâce à l'enfant. D'accord ? Jusque-là, elles n'existent pas. Donc, pour une femme, c'est évident qu'il vaut mieux vivre dans une société matrilinéaire et pas matriarcale. Malheureusement, ça n'existe pas, hein, le matriarcat. Anthropologiquement, en tous les cas, il n'a jamais été trouvé. Mais en tous les cas, sur le côté matrilinéaire, où l'héritage passe par les femmes, c'est quand même plus confortable pour une femme que dans le côté patrilinéaire. Hein. Parce qu'on est reconnu immédiatement, puisqu'on est porteur des biens, la transmission des biens. OK. Voilà, donc cette notion de la naissance, elle est quand même très ambivalente hein, en tant que telle. Et puis la lettre qui va être transformée en permanence. Hein. Donc cette lettre qu'on envoie pour signaler le fait qu'on a eu deux beaux enfants et qui est transformée en monstre. Les enfants deviennent des monstres, deviennent des diables, hein, qu'il faut supprimer. Souvent, le roi demande à ce qu'on les garde et qu'il verra quand on rentre, mais on dit la lettre est retransformée de nouveau. C'est, voilà. Donc là, il y a le choc de repartir. C'est-à-dire que la fille va être obligée de requitter de nouveau un endroit où elle était, mine de rien, plus ou moins protégée. Hein? Donc là, le conte, qu'est-ce qu'il nous dit ? On passe d'une situation où on est dans un désir incestueux à une autre situation où on est dépendant des beaux-parents et d'un mari qui est loin. Et on va être obligé de nous, qui va encore une fois nous refouler, nous réabandonner en tant que tel. Bon, de parcours, hein, au niveau initiatique, c'est pas léger. Hein. En tant que tel, c'est lourd. Voilà. Donc là, elle part souvent avec ses deux enfants, hein, ou avec son enfant, peu importe. Voilà. Et là, on va retrouver la version, la part la plus christianisée du récit. Hein. C'est cette partie-là qui sera souvent extrêmement christianisée. Voilà. C'est-à-dire le miracle qui va s'accomplir souvent au cœur de la forêt, au cœur du désert, des lieux en tous les cas qui sont toujours non sociaux. Le miracle, pour ça que le mot de fontaine, le puits, c'est déjà ambigu pour le conte merveilleux, parce qu'une fontaine c'est construit, un puits c'est construit. Donc c'est déjà des objets sociaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Si l'initiation elle est mais ça c'est pas rien, c'est aussi ça fait partie de la christianisation, voilà, de cet objet de resocialiser hein, l'espace. Quand on est dans des versions beaucoup plus anciennes, souvent c'est dans la nature, on est vraiment en pleine nature, souvent la rivière, la source, hein, mais c'est souvent la rivière qui est en jeu. Et donc là elle va souvent rencontrer, hop là, elle va souvent rencontrer des personnages qui sont soit des saints, soit des vieux, soit la Vierge. Hein, voilà. Donc on est vraiment sur une palette là, et qui sont tous toujours des intermédiaires, bien sûr, avec Dieu, mais c'était le propre des saints. Les saints, c'était, on les a construits pour remplacer les dieux païens, hein, et faire en sorte qu'ils soient les intermédiaires, que tout soit pyramidal, si vous voulez. C'est-à-dire que le saint ne fait rien par lui-même. Il ne fait qu'une demande à Dieu qui va exécuter, tout le temps. C'est vraiment le côté... Donc, ils ne sont que des intermédiaires, hein, systématiquement. Donc, il y a quelques versions où, quelque part, c'est beaucoup moins marqué. On ne définit pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein, voilà. Donc, c'est un vieux qui va faire le miracle, en gros. Voilà, mais on dit pas qui il est, ce vieux-là. À vous de voir ce que vous voulez. Donc on laisse dans cette puissance en fin de compte de la magie, mais on ne met pas obligatoirement une définition de cette puissance là. Les saints sont parfois des éléments, on va y revenir peut-être après, il y a un conte dans les mille et une nuits, hein, qui a exactement une fille aux mains coupées, voilà. Mais là c'est un roi qui ne veut plus qu'on fasse d'aumône. Il interdit à tout le monde de faire des aumônes. Et celui qui les fera, on lui coupera les mains. Donc il y a une femme qui, malgré tout, va le faire. Hein, elle va donner deux pains à un mendiant. ça se sait, on lui coupe les mains. Voilà. Bizarrement, le roi, au bout d'un moment, cherche une épouse et sa mère lui dit qu'il y a une femme très belle, mais il y a un problème, elle manque des mains. Donc, c'est le roi qui lui a fait couper les mains qui épouse cette femme. Hein, les co-épouses vont dire qu'elle n'est pas très nette, donc le roi la rejette. Hein, et pareil, on a le problème de la rivière. Donc, la rivière elle tombe, son enfant, il n'y en a qu'un dans la rivière. Et là, c'est deux personnages qui lui disent « Tu veux retrouver tes mains ?» Oui, donc il dit on va prier Dieu pour que tu les retrouves. Elle retrouve ses mains et il dit on est en fin de compte les deux pains que tu as donnés au mendiant. Hein, voilà. Donc encore une autre stratégie, hein, mais on est toujours dans le même cheminement, voilà, hein, qui est cette notion de toujours être dupé par ou être dans des mauvaises, dans un mauvais déroulement de son chemin, ou enfin mauvais, dans des étapes de son chemin qui ne sont pas encore des aboutissements en tant que tel. Voilà. Donc les lettres, bah, c'est oui, dans la tradition orale, c'est évident que le côté écrit était souvent remis en cause. C'est-à-dire que pour les gens, on leur disait toujours que la Bible, c'était la vérité, mais ils savaient très bien que les écrits ne disaient pas toujours non plus la vérité. Des travaux comme ceux de Jean Stein l'ont démontré, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez l'historien Jean Stein, qui avait fait un travail sur la légende des Camisards. Voilà, donc il avait fait un travail sur les écrits par rapport aux Camisards. En gros, à 75-80%, les écrits, c'est tous contradictoires sur un événement. Et par contre, les légendes étaient toutes cohérentes. Donc il disait où est le juste, où est le faux, dans l'écrit ou dans l'oral. Hein, voilà. Donc cette notion aussi de l'oralité, bien sûr, elle est dans beaucoup de sociétés, l'écrit n'est pas obligatoirement reçu comme étant un message de vérité. Et donc là, les lettres qui sont détournées, ce n'est pas pour rien. Il y a aussi cet espace de « on peut aussi détourner les lettres ». Ce n'est pas parce que c'est écrit que ce n'est pas détournable, hein, en tant que tel. Voilà, et ça, les gens de l'oralité sont beaucoup méfiés de la relation à l'écriture. Hein. D'où la difficulté d'évangélisation. Hein. En tant que tel. Donc là, pareil, il y a cette notion de rivière qui est toujours à prendre, parce que si on le prend sur le plan celtique, la rivière, c'est un changement de monde. C'est ce qu'on appelle un site, hein, c'est vraiment S-I-T-H, c'est une frontière entre les deux mondes. Voilà. Et dans beaucoup de versions, on va trouver le passeur, celui qui fait passer d'un monde à l'autre, dans beaucoup de versions de la fille aux mains coupées. Hein. Donc, changement de monde, et dans l'autre monde, elle se met en attente, en latence, pour attendre que son mari revienne. Et son mari ne peut pas la trouver parce qu'elle n'est pas dans ce monde-là. Il va falloir qu'il fasse un sacré chemin pour aller de l'autre côté, lui aussi. Là, il va demander, et souvent, on va pointer les 7 ans. C'est au bout de 7 ans qu'il la trouve. Donc, le 7, bon, le chiffre par excellence du cycle, mais aussi l'âge de raison. C'est-à-dire que les enfants ont 7 ans, hein, quand il va les retrouver. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a pu se jouer, cette notion de temps. Voilà. Et là, bien sûr, on va retrouver les retrouvailles. Hein. Donc là, on va retrouver plein de motifs de la difficulté à se reconnaître. Cette notion de la reconnaissance qui n'est jamais évidente, après autant de temps. Voilà. Mais je pense qu'aussi, ce n'est pas difficile de se reconnaître pleinement quand on a passé aussi du temps de maturation, autant du côté du masculin que du féminin. Où est-ce que ça se joue, hein? Et là, on va avoir souvent la symbolique de l'alliance. Hein? Donc, on retrouvera après dans d'autres versions, celle de Podane en particulier, ou celle de surtout Podane, voilà, où elle met l'alliance dans un gâteau, hein, pour le prince, ou dans un aliment en tous les cas. Et là, c'est pareil, on va le mettre dans un gâteau, ou les du dessert, oui, on met son alliance dedans, il trouve l'alliance. Voilà, et donc, il comprend que c'est vraiment sa femme, quoi, il n'y a plus de doute. Hein? Voilà. Et donc là, Happy End, seul élément qu'on va retrouver dans certaines variantes, c'est comment je vais sortir l'épine du genou de mon frère, comment je vais sortir l'épine du genou, du pied de mon père. Donc des fois, elle demande à repartir dans ce côté-là. Hein. Voilà, donc, dans Zalgoun, elle va retirer l'épine du genou de son frère, mais le frère veut encore la poursuivre. Il n'a pas compris, lui, encore. Donc, elle va être obligée de prendre la fuite avec ses enfants, hein, et puis de se mettre vraiment à l'écart. Mais elle l'a soignée. Elle est arrivée quand même à... Donc, pareil, le pardon de ce côté-là est fait, mais de l'autre, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Hein. Dans d'autres endroits, mais comme on disait tout à l'heure, elle va enlever l'épine du père, mais le père, dans l'émotion, en meurt. Hein, voilà. Et puis, dans d'autres endroits, bah, tout se passe bien. Hein, voilà. Et puis, bien sûr. Hein, oui, dans certaines versions, ils se remarient une deuxième fois. Hein, c'est-à-dire qu'il y a d'autres noces qui se refont. Voilà. Mais ça, ce n'est pas rien non plus dans, symboliquement. Hein, voilà. C'est que, il y a le mariage dans la représentation de la femme, il y a le mariage après dans, dans l'accomplissement vraiment du couple en tant que tel, hein, ce n'est pas non plus rien. Voilà. Et après, il y a la punition hein, de toutes les, donc de beaucoup de versions, bien sûr, toutes ceux qui ont été le diable, etc., plus ou moins la belle-mère, plus ou moins c'est attaché à la queue du cheval. C'est, voilà. Donc on a le côté qu'on retrouve un peu moral, on va dire. Hein, mais en tous les cas, il faut que ça soit clair. Voilà, on fait pas ça. Quoi. Après, comme dans tous les contes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'il y a eu d'autres initiations? Personne ne le sait. C'est-à-dire, le conte ne prend l'initiation que souvent du passage de l'enfant à l'adulte. Chercher des contes merveilleux qui traitent vraiment de problématiques de vieux ou de non, ils viennent en tant que personnages, mais souvent non, c'est vraiment cette cohérence hein, des difficultés de passer de l'enfance au monde adulte qui est en jeu. Et on est vraiment sur cet espace-là. Voilà. Donc, en gros, moi, on va ouvrir peut-être la discussion, mais pour moi, le conte merveilleux, il est là. C'est-à-dire que c'est comment aujourd'hui le travailler. C'est ça qui est vraiment en jeu. C'est vraiment comment faire en sorte que ces outils-là deviennent des outils de mise en questionnement, de mise en représentation, de travail intérieur. Voilà. Et il me semble que c'est compliqué quand on a une seule version, quand c'est compliqué quand on a une personne qui ne connaît pas vraiment la matière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est aussi chargé du sens quand on raconte. On n'est pas uniquement dans un récit, même si déjà le récit en lui-même est capable de faire des choses intéressantes. Mais c'est évident que la prise en charge par le conteur est aussi extrêmement importante. C'est-à-dire que si lui, quelque part, met en vibration le sens, bah, son corps le porte, sa mimique, sa voix... Il y a des choses qui vont être dans une implication qui ne sera pas uniquement une lecture de récit. On est vraiment dans tout à fait autre chose. Voilà. Donc, ce travail de comparaison, pour moi, c'est une des seules possibilités aujourd'hui de retrouver le sens plein des récits, hein, tout simplement parce qu'on n'a plus les transmetteurs. La courroie de transmission s'est coupée au moment donné. Hein, et à un moment donné, eh ben, on a perdu donc la transmission, comment dire, non intellectuelle du récit. Que les conteurs se sont corrigés entre eux, mais sans être obligatoirement dans l'analyse. Mais parce qu'ils avaient reçu le conte et l'émotion juste du conte. Ils avaient pu la retravailler aussi pleinement. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, à partir des années, on va dire quoi? On peut situer ça, les dernières collectes avec des conteurs traditionnels, c'était il n'y a pas si longtemps, parce que Pierre Pousse en était un, par exemple, dans l'Aude, mais c'était un des derniers, quoi. Mais on va dire que c'est à partir du moment de 40-45, l'après-guerre, que les conteurs se sont éteints dans la tradition, souvent. Alors, pour différentes raisons. Souvent, la première des raisons, c'est que quelque part, on interdisait la langue occitane et que quelque part, ils avaient de moins en moins de locuteurs qui étaient capables de les entendre et ils savaient raconter souvent que dans cette langue-là. C'était leur façon. Moi, dans les collègues, ils me le disaient. Hein. Ils me disaient, mais moi, si je le dis en français, ça va être grossier. C'est grossier dans le sens où la poétique disparaît. Il n'y a plus la poésie de la langue. Donc, je ne peux pas m'exprimer pleinement dedans. Donc, on a perdu comme ça des transmetteurs. On a perdu des gens qui avaient reçu, eux, non pas sur le plan intellectuel, mais sur le plan sensible, l'intelligence du récit en tant que tel. Donc, aujourd'hui, ben oui, si on veut regagner un petit peu de terrain, moi, je pense qu'on a intérêt de refaire un travail de reconstruire du sens aussi derrière ces récits-là en tant que tel. Il faut que je regarde ma montre un peu pour que... Alors, est-ce qu'il y a déjà des réactions, des questions, des apports, des choses qui viennent? Tu veux que j'arrête mon micro?
Oui.
Vos réactions?
Ouais, je veux bien, moi, oui. C'est juste pour revenir sur ce par quoi tu as terminé, en fait. je comprends bien l'utilité et en plus la passion qu'on peut mettre à comparer tout le maximum de versions pour bien saisir le sens des contes. Mais les anciens conteurs n'avaient pas cet éventail à leur service, ou bien si, c'est ma question. Est-ce qu'ils étaient est-ce que dans un lieu, en un temps, on ne connaissait qu'une version, voilà, du conte.
Déjà la version. Déjà, j'ai réouvert mon micro. Hein. Déjà, la version qu'ils avaient reçue était une version qui était elle-même chargée d'une intelligence et d'un vécu et d'une pensée analogique. On en a parlé un peu la dernière fois. Donc, ce n'était pas une version qui était vide uniquement ou simplement limitée au champ littéraire. Hein, ils avaient aussi tout un cadre contextuel qui la nourrissait. Donc, ça, c'est déjà pas rien. Et en plus, oui, ils connaissaient bien souvent d'autres versions parce que dans les foires, dans les veillées, dans les mariages, quelqu'un pouvait raconter une autre version de ce récit-là. Voilà. Et donc, même s'ils gardaient leur version, ils la nourrissaient souvent. Voire même les colporteurs qui arrivaient avec des bouquins de la Bibliothèque Bleue de Troyes, ils amenaient encore d'autres versions, de la mannequine et autres. Hein. Donc, le principe, c'est que souvent, ils ne savaient pas lire, mais on payait la version, mais on récupérait. Et c'était le colporteur qui lisait la version. Mais en tous les cas, c'est autant de motifs. Et ça, on peut le repérer, par exemple, au niveau de l'arrivée des Mille et une nuits en France. Voilà, une fois qu'elles ont été posées par, comment il s'appelle déjà, voilà, hein, bah ça, on voit arriver bizarrement des motifs qui s'intègrent dans les contes collectés, parce que quelque part, bien sûr, le colportage faisait son chemin et on ne récupérait pas tout le récit, mais on récupérait un motif qui nous plaisait, on récupérait et on l'intégrait parce que ça faisait sens dans un élément complet. Donc, il ne faut pas penser qu'ils étaient ignorants des autres versions, hein, mais ils avaient leur propre version avec laquelle ils vivaient. Un peu comme font les conteurs aujourd'hui, mais bon, souvent avec une seule version, malheureusement. Hein, voilà.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Patrick Siris à Grenoble.
Oui, la tradition orale, on la connaît bien, puisque c'est une tradition orale de conteurs, moi je suis quand même ma grand-mère. Mais j'ai l'impression que ces versions, elles appartenaient peut-être à tel village ou telle version, mais c'est surtout qu'elles étaient en lien justement à ce village de compte, beaucoup avec.
Est-ce que vous pourriez passer un micro à la personne qui parle? On ne comprend absolument rien.
Avec des écrits qu'on a vus là sur une personne qui est autiste qui parle du langage des animaux. Tout ce monde d'image que porte la langue occitane.
Donc, je confirme qu'on ne comprend pas.
Je ne vous vois pas non plus.
Ouais, il faut parler plus fort.
Voilà, donc en fait, c'est pour dire qu'il y avait aussi autre chose que des versions comme on peut retrouver aujourd'hui littéraires, et que c'est compliqué de comparer, puisqu'on était dans un langage très sensoriel, très habité par la nature, par les images, et peut-être il y a même autre chose. Et je le dis parce que je l'ai vécu, c'est quelque chose qui n'est pas mort définitivement, qui vit encore un peu, heureusement, comme on pourrait le dire. Donc, j'avais besoin d'exprimer ça, parce que c'est difficile de comparer ce qu'on est aujourd'hui.
Ouais. C'est moi ce que j'appelle la pensée analogique. Hein. C'est-à-dire que la pensée analogique, pour moi, c'est vraiment la pensée qui part de l'expérience, qui part de la réalité d'un terrain. Et c'est vrai que jusque dans les années 45, on était à 80% de la population dans un milieu rural qui ne pensait pas la nature, mais qui la vivait au quotidien. Pas pareil. Hein. Donc, ça veut dire que quelque part, leurs références, c'était des références de comparaison entre ce que faisait un animal et ce qu'on faisait nous, ce que faisaient les animaux entre eux, ce que faisait la végétation, etc. Donc, leurs éléments de référence n'étaient pas ce qui, aujourd'hui, est quand même inversé, puisqu'on est à 80% de la population en milieu urbain. Hein, donc, on est aussi dans des références qui se sont, bien sûr, diluées. Et donc, le conte merveilleux part d'un référentiel qui n'est plus le nôtre aujourd'hui. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on a besoin de retravailler aussi, quand on veut transmettre, on essaiera d'y réfléchir, mais à la notion de traduction ou de complémentarité. Pour moi, tous les contes qu'on a dans les recueils de collecte sont incomplets pour aujourd'hui. Hein, ils sont tous des contes étrangers. Voilà, donc, ça veut dire, quelque part, on est obligé de refaire un travail pour les réalimenter. Parce que quelque part, sinon, on passe à côté du sens. Et pour moi, le comparatif permet ce travail-là, c'est tout. Hein. Moi, le comparatif, oui, bon, il peut servir à mille et une choses. Hein. Mais pour le travail de transmission, il me paraît essentiel. Le compteur ne va pas parler de son travail de comparatif, c'est sa sauce à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque part, ça lui permet de nourrir les images. Ça lui permet vraiment d'aller épaissir sa parole et sa transmission. Parce que pour moi, la transmission du compteur, ce n'est pas que des mots. Hein. Voilà, communication, c'est 7% des mots. Hein. Donc, il y a tout ce qu'il y a derrière. Quoi. Hein.
Donc, deux mondes complètement différents, le monde de la littérature et le monde de l'oralité. Donc, c'est compliqué.
Je suis désolée, c'est complètement inaudible.
Voilà, pour bien mettre le point là-dessus, parce qu'on est vraiment dans une compréhension qui est difficile si on ne plonge pas là-dedans, dans ce monde des sens.
Okay. C'est pour ça qu'on essaie de faire des formations.
Ouais, juste, c'est vrai que j'ai des questions en visio aussi parce que donc les gens souhaitent intervenir. Existe-t-il des contes merveilleux qui évoquent l'inceste en direction des jeunes garçons de la part du maire ou de la mère?
Oui, bien sûr, il y en a aussi. Hein. C'est, je pense que quelque part, bon, après, il faut aller chercher dans d'autres répertoires. Là, on est vraiment avec le féminin en tant que tel. On va le voir après, je pense, dans la prochaine session, hein, puisqu'on va travailler sur le niveau plutôt masculin. Là, on est plutôt sur le côté féminin. Hein, voilà. La prochaine fois, c'est l'initiation masculine qui va être en jeu. Donc, bien sûr, on va voir que là aussi, il y a des contes qui sont très transgressifs dans ce côté-là, hein, avec des incestes garçon-garçon. Mère garçon, hein, des fois qui sont sous-jacents. Voilà. Donc là aussi, il n'y a pas que dans un sens que ça peut se passer. Hein. Il y a plein d'autres possibles aussi. Hein.
Il y a une question derrière.
Oui, et là de la dame. Alors et après derrière.
Pour revenir au conte, tu n'as pas beaucoup parlé de la transformation des lettres. Et ça, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. On trouve la version avec le diable qui transforme, et avec le messager, enfin bon, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette transformation? C'est quelque chose que j'avais pas vu par ailleurs. Et évidemment, moi, j'en ai une interprétation dans son chemin initiatique, mais je ne sais pas si tu as des choses à dire ou si quelqu'un, ça m'intéresserait.
Ben, donne la tienne.
Je peux te donner, moi, ce que j'en pense, mais bon, après, une fois de plus, moi tout ça, c'est comme tout élément symbolique, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des déploiements, hein, qui sont importants. Pour moi, c'est évident que la transformation en tant que telle, pour moi, elle est en résonance avec la non-acceptation de l'enfance, de l'enfantement. C'est une mère qui, quelque part, n'est pas encore prête. Côté de la monstruosité des enfants, de toute mère, ça, les gens qui travaillent sur les accouchements, les sages-femmes, cette peur de mettre au monde des monstres. Hein. Tout ça, ça vient en écho. On est dans des espaces très complexes, pour moi, de la notion de maternité qui sont en jeu, une maternité non assumée encore. Pour moi, le part avec des enfants qui ne sont pas assumés. Voilà. C'est qu'elle soit capable de se pencher pour boire elle ou. Il y a plein d'éléments où on nous dit que quelque part, elle n'est pas capable de donner la tétée. Elle demande à un berger de le prendre pour lui donner. Il y a tout le fait des deux mains qui manquent, mais en même temps, ça dit beaucoup de choses sur le fait d'une jeune mère voilà, qui n'a pas été en plus éduquée par sa mère, elle n'était pas là. Ça dit beaucoup de choses d'aujourd'hui avec les jeunes femmes qui accouchent sans aucun environnement. Vous voyez ce que je veux dire aussi. Donc la lettre, pour moi, elle ne met que un écho. Enfin, moi, j'entends comme ça. Hein, elle met un écho cette problématique-là, quoi. Et que quelque part, le regard extérieur est manipulateur aussi vis-à-vis de cet état-là. Il y a plein de choses qui sont en jeu derrière. Hein. Voilà. Il y a en tous les cas un endroit de défaillance. Enfin, c'est ma vision des choses. Hein. Oui, alors on peut peut-être donner ça.
C'est la même chose.
inaudible.
Et après, j'aurai des interventions aussi en ligne.
Il y avait Yacine derrière qui voulait aussi.
Oui, Yacine après.
Il y a beaucoup d'interprétations, oui, sur ces messages qui sont changés. Il y en a une autre qui pourrait être entendue, c'est la non-communication entre le couple, entre le roi et donc qui est parti à la guerre. Et en fait, comme parfois, on dit des choses, mais l'autre l'entend différemment. Et dans ces cas-là, c'est le couple qui peut être questionné, et non pas cette fois-ci la maternité.
Oui, là du coup, il y a la paternité qui est en question.
la compréhension, la non-compréhension, des fois, on ne se comprend plus.
J'avais
une petite remarque, c'est une question. Les mains coupées, moi, ça me faisait penser aussi quand tu disais que c'était. Elle ne peut plus prendre sa vie en main. Moi, ça m'a fait penser aussi, surtout dans un rapport à la chrétienté, à la masturbation. Il y a quelque chose aussi qui est l'ordre de la sexualité. Elle est petite, on lui coupe les mains après ce qui s'est passé, un peu comme si elle n'avait plus accès à une certaine forme de désir. Et ça m'a fait aussi penser, alors par contre ça c'est dans d'autres contrées, mais comme tu as dit que c'était aussi oral à travers le monde, à l'excision, à tout, aussi un rapport au désir, en tout cas quelque chose qui est coupé et qui va questionner l'intégrité par rapport au désir. Moi, ça va résonner en ça, donc voilà, c'est pour dire ça. Après, je trouvais que, dans la question de genre, là on voyait, mais peut-être que dans certaines versions, c'est moins le cas, que sa féminité était beaucoup structurée par le genre masculin. À chaque fois, au début, on lui coupe les mains, c'est un balai, elle se marie, c'est un homme. Et elle retrouve ses mains, c'est une divinité ou masculine plus ou moins. Donc il y a la fin, elle a des enfants masculins, et du coup il y a aussi ce côté de la structuration de la féminité dans le masculin. J'avais aussi une remarque aussi, c'est le fait de perdre ses mains, ça me faisait penser aussi de prendre la main de quelqu'un. Quand tu demandais la question de la beauté, en fait, il a pris sa main alors qu'elle n'avait pas de main. Il y a peut-être quelque chose. Il ne peut pas lui passer l'anneau, en fait. Le mariage, finalement, est-ce qu'il est valide ou, moi, c'était quelque chose qui me questionnait symboliquement. Et après, une question dans l'apaisement à la fin finale, je voulais savoir, est-ce que c'est envisageable que la fin. Elles correspondent à quelque chose qui aujourd'hui serait socialement plus, on va dire, qui résonnerait avec quelque chose qui soit plus apaisant pour les personnes qui écoutent aujourd'hui. C'est-à-dire la fin de dire, je le dis en caricaturant, mais à la fin, elle retrouve ses mains, elle retrouve sa liberté et elle se sent mieux. Est-ce que c'est important que cet apaisement-là, ils correspondent à un apaisement qui était celui, par exemple, de la famille à l'époque et qui était l'aboutissement d'une femme. Ou est-ce qu'on peut proposer un autre aboutissement sans altérer le sens? Voilà, c'était juste la question.
Sur cette fin, le reste, je le prends comme des remarques. Voilà. Mais sur cette fin en tant que telle, moi, je pense que ce qui est toujours important, c'est que ça ne soit pas des choses explicites. Parce que sinon, on dénature la vocation même de dévoiler en voilant. Si ça reste dans la poétique, si ça reste dans un espace polysémique, c'est possible. Voilà. Mais que ça ne soit pas surtout un espace de fermeture sur un seul sens. Voilà. Moi, je crois que c'est une règle pour tout conteur qui veut travailler dans le merveilleux, hein, c'est de conserver la polysémie du sens. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un seul sens déterminable. Voilà. Même si quelque part on peut déterminer sur une écoute quelque chose qui se passait, qui est ce moment-là, et là il n'y a peut-être qu'un sens dans un premier temps, on sait que la deuxième écoute ou la mémoire qu'on va en avoir va ouvrir d'autres sens. Donc, c'est comment ne pas fermer. On a parlé un peu la dernière fois, on en parlait avec quand Michel Boissier parlait justement du côté non moral. Pour moi, ce n'est pas une question de non moral, c'est une question de comment le compteur donne son opinion ou est-ce que le compteur donne un outil qui ouvre du sens, des sens. Voilà. Ça n'empêche pas que lui, il a le sien. Ouais, on a tous nos implications. Mais comment, quelque part, je ne vais pas imposer ce que moi, je pense, en me servant du conte merveilleux. Ouais, parce que ça peut devenir extrêmement dangereux et manipulatoire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des outils qui sont assez forts pour en faire des outils de propagande. Hein. La religion l'a très bien compris, d'ailleurs. D'accord ? Voilà. Donc, c'est aussi comment ne pas devenir religieux, ne pas devenir sectaire, ne pas devenir et se servir de ces outils qui sont des outils symboliques pour imposer sa propre vision du monde. Et ça, c'est extrêmement important.
Alors, juste, on reviendra après, parce que là, j'ai plusieurs interventions avant de laisser la parole à Cécile Lacroix, qui a plusieurs choses à dire. J'ai juste une question de Francine qui te demande, Marc, qu'est-ce que tu entends quand tu parles d'enrichir ? Elle l'a posé il y a une minute. Quand tu parles d'enrichir.
Alors, qu'est-ce que je pense dans la notion d'enrichir ? Pour moi, enrichir, j'ai dû mettre de suite après épaissir. Hein ? C'est-à-dire, quelque part, ne pas se contenter d'une hypothèse immédiatement perçue, mais de se dire, est-ce qu'il y en a d'autres ? C'est-à-dire de multiplier les possibles. Hein. C'est-à-dire, le symbole en lui-même, c'est ça, sa force, c'est qu'un élément du symbole va en ouvrir sur un autre, va en ouvrir sur un autre, et on ne va jamais au bout du symbole. C'est quelque chose qui déploie une pensée. Donc, enrichir, c'est simplement ne pas se contenter d'un élément, mais de toujours le questionner pour voir si on peut aller plus loin, s'il y a d'autres éléments qui peuvent se cumuler. Voilà. En sachant très bien que ce sera impossible à tout raconter, hein, parce que c'est trop vaste, mais par contre, on va avoir un état de plénitude quand on raconte, qui fait que moi je sais qu'aujourd'hui, je sais un conteur qui arrive et qui me raconte une histoire ou qui me conte une histoire. Hein, c'est-à-dire que quelque part, il est vraiment dans cette épaisseur du propos où il est uniquement dans la narration d'une histoire qu'il vient de lire. Quoi. Hein, c'est pas pareil.
Tu veux. Cécile. Donc, on va laisser la parole à Cécile. Cécile, si vous voulez bien allumer votre micro et j'éteindrai par la suite.
Ah. Je
on vous laisse la parole.
Merci. Bonjour tout le monde. Des petites remarques comme ça. À propos de l'enfant qui reconnaît le père, ça m'a rappelé moi la version de réponse. Enfin, c'est autre chose, mais moi j'ai une version de réponse où effectivement c'est drôle, c'est l'enfant qui reconnaît le père alors qu'il l'a jamais connu. Ça c'était juste pour ce truc-là. À propos de la dépendance de la femme, c'était juste que ça m'a rappelé et du coup j'ai une question aussi. Vous savez les femmes chinoises dans la noblesse hein, à qui on cassait les pieds etc pour les maintenir très 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 petits. Et que du coup, elle ne pouvait pratiquement pas marcher. En tout cas, c'est une souffrance. Ça les rendait totalement dépendantes. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça. C'est, y a-t-il une femme en main coupée en Chine une version chinoise, parce que c'est hyper en rapport de la dépendance féminine. Et ensuite, je voulais juste... une autre question, c'est que je comprends pas bien. J'ai l'impression qu'elle... elle s'en sort uniquement par le masculin, en fait, par l'aide de masculin. Hein, elle est mise dans les mains coupées, tout ça à cause du masculin, mais en fait, elle s'en sort grâce au masculin aussi, pas toute seule, ou alors j'ai pas tout compris. Et ça me pose un petit, ouais, voilà, ça me pose question. Et sinon, il y a eu des remarques sur le fait qu'il y en a eu deux personnes qui sont intervenues pour dire qu'il y avait des versions où elle accouche également de filles. Je trouvais ça intéressant de partager avec tout le monde, tous ceux qui sont là-bas. Merci beaucoup.
Notamment une version turque. Alors, excusez-moi, je vais vous redire le nom. L'oiseau chagrin. Je recoupe, excusez-moi.
Alors, quelque part, oui, moi je ne connais pas toutes les versions, hein, déjà. Les 480 et quelques versions recensées et disponibles, je ne les connais pas toutes. Donc après, c'est intéressant de savoir d'où viennent ces versions et dans quelle culture. Est-ce que c'est des sociétés matrilinéaires? Est-ce que c'est des sociétés qui sont dans d'autres dispositions, hein? Donc là aussi, en Conte merveilleux, il prend en charge aussi, enfin, il se met un écho à son environnement, hein. Il n'est pas universel non plus, hein. Le symbole n'est pas universel. Le symbole est culturel, par définition, hein. Voilà. Donc là aussi, il y a des choses. Puis après, ça veut dire que quelque part, dans tous les contes, quels qu'ils soient, on a aussi des peaux d'âne masculins, on a aussi, mais ils sont souvent des minorités comme des réactions, vous voyez ce que je veux dire, d'inversion. Donc là aussi, on en a, mais souvent, on va les trouver en toute petite quantité par rapport à une masse qui prend en charge un élément direct, hein. Donc sur le plan anthropologique, c'est intéressant, mais souvent, il faut le prendre aussi, le recontextualiser pour comprendre réellement ce qu'est. Moi, je n'en ai pas trouvé, hein, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais en tous les cas, c'est possible qu'il y en ait, oui.
Excusez-moi. Donc, on a une dernière question et une intervention de Claire qui est en visio.
Non, mais j'ai posé une question, moi. Je n'ai pas posé une question sur les enfants. J'ai posé une question. J'ai posé deux questions. Excuse-moi, Marc. Hein. Mais un, c'était, y a-t-il des versions en Chine? Et deux, c'était, mais je ne comprends pas bien par rapport au masculin à la fin qui est résolu pour elle, ou est-ce que je n'ai pas tout compris? Merci.
Alors, je tente d'y répondre. Oui, il y a des versions en Chine. Voilà, hein, il y a des versions en Asie assez répandues. Ça, il n'y a pas de souci. J'essaierai de mettre les références dans le compte rendu, hein, voilà, en tant que tel. Après, pour ce qui est du masculin, oui, il y a quelques rares versions où quelque part c'est l'émotion qui va lui redonner les mains. Hein, et c'est celle dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est ce vieil homme est là. En fin de compte, elle tombe ses enfants à l'eau. Elle lui dit, mais sauvez-les. Et le vieil homme lui dit, non, sauvez-les vous-même. Je n'ai pas de bras, sauvez-les vous-même. Et à ce moment-là, elle tend les bras, elle est tellement dans le désespoir que les bras repoussent. D'accord. Et c'est elle qui construit sa maison, construit sa cabane. Voilà. Donc ça aussi, mais c'est des versions rares. D'accord. C'est des versions très rares parce que ce conte a été très vite filtré par la chrétienté, en fin de compte. Hein. C'est devenu un modèle d'exemplat. Donc, et du coup, c'est celui qui a été le plus diffusé. Je pense que les versions plus archaïques devaient être plus souvent basées sur le champ émotionnel. Hein, voilà. Mais quelque part, la chrétienté a fait son travail, l'a récupéré ce motif-là. Hein, voilà.
Merci.
Je reprends la parole. Juste une intervention. Je remets le son. D'Anne Marchand, avant de laisser la parole à Claire, Anne Marchand voulait souligner la différence de mutilation entre main coupée et bras coupés, ce qui reste tout à fait différent en lien si on regarde des mythes anciens. Une personne du public en visio n'a pas éteint son micro, s'il vous plaît. Donc, on va laisser la parole à Claire, si vous voulez bien. Claire qui a posé pas mal de questions.
Ah, c'est moi, Claire, là, vous me
dites. Oui, c'est vous, tout à fait.
Excusez-moi, je ne mets pas ma caméra parce qu'elle ne marche pas, elle saute et tout, donc je ne veux pas être désagréable pour les gens. Non, ce n'est pas tellement des... question, c'est parce que j'ai eu la chance, comme je disais, de travailler ce conte dans un cadre sur les contes merveilleux où on analysait toutes les versions. Et moi, j'ai pris ce conte que je me disais jamais capable de pouvoir raconter parce que, voilà, bref, par rapport à mes convictions, par rapport aux femmes et tout, je me disais ce conte-là est vraiment trop atroce, c'est horrible, une fille à qui on coupe les mains, c'est vraiment jamais je raconterai ça. Et j'ai fait exprès de le choisir dans ce cadre de ce stage. En me disant, au contraire, de s'affronter à la matière et de voir ce qui existait. Et c'est vrai qu'en comparant plusieurs versions, on a fait un travail minutieux avec Sonia Koskas de comparaison des versions, et j'ai découvert incroyable que je pouvais, comme disait Marc, en tant que conteuse aussi autrice de ses propres remélanger des versions avec des motifs qui me semblaient pour moi plus faciles à transmettre et audibles et qui ne remettaient pas en cause l'architecture de l'histoire et qui ne détournaient rien puisque je reprenais les motifs des contes traditionnels mais avec des valeurs positives, c'est ce que j'ai dit dans le chat, c'est-à-dire une version par exemple où les parents du roi sont en accord avec leur belle-fille et sont en colère contre leur fils. Bon, je trouvais que c'était un élément positif aussi, plutôt que toujours montrer où c'est une chèvre qui nourrit les enfants, donc c'est quand même un animal féminin, la chèvre, hein, c'est pas que masculin. Enfin bref, plein de trucs comme ça pour essayer de faire une version, à la fois que j'arrive à dire moi, en tant que conteuse, autrice de mes paroles, quoi, je veux dire responsable de ce que je raconte, et en même temps, qui tiennent la route pour, j'espère, puisse intéresser l'auditoire. Voilà, c'est juste une expérience personnelle, mais comme quoi, il ne faut pas s'arrêter non plus tout de suite à ce qui peut nous heurter. Même moi, par rapport aux femmes, je me disais, je ne pourrais jamais faire ça. Voilà, merci.
Alors, Marc va reprendre.
Oui, juste pour une petite réaction là-dessus. Donc, oui, bien sûr, tout est légitime. Il n'y a pas d'interdiction avec le conte. Hein. Tout dépend ce qu'on veut en faire. Voilà. Donc, là dans votre position, c'est évident que c'est un conte dans lequel vous vous refusez certaines problématiques. Hein. Donc, vous nous le dites clairement. Et en plus, vous ne voulez pas les transmettre. Si on voulait travailler sur le plan d'une thérapie, par exemple, c'est évident que c'est supprimer des problématiques, ça peut poser aussi problème de travail. Hein. C'est aussi un espace.
J'ai rien supprimé, Marc. Vous n'avez pas compris.
Le questionnement. Hein.
Non, j'ai rien supprimé.
Je crois qu'une fois de plus, il y a mille façons d'aborder le récit, il y a mille objectifs de les prendre en charge. Hein. Là aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc, c'est évident qu'en fonction du public, en fonction de l'intention, en fonction de ce qu'on veut poser. Mais en même temps, faites attention de ne pas trop enlever de problématiques qui sont dans le conte, parce que sinon, vous,